Le premier mot que je dirais, c'est un mot grec, métamorpho. J'entends mal. Attends, on va baisser à fond. Là, c'est bon. Okay. Ça va mieux. C'est bien, c'est bien. Premier mot que je mettrai, métamorpho, qui est un mot grec et qui signifie métamorphoser. C'est ce que Alain vient d'expliquer. C'est que là, ce soir, ce que vous allez devoir faire, c'est remettre à zéro la conception du mariage. Faire un reset. Parce que ce que vous allez entendre ce soir, pour certains, ça va être la première fois qu'ils vont l'entendre. Vous allez entendre ce soir le mariage, comment il est vu par le Seigneur. Et pas le mariage du monde. Parce que malheureusement, il n'y a pas, on va le voir tout à l'heure, il n'y a pas assez de préparation au mariage. Et les gens rentrent dans le mariage sans avoir les bases du mariage chrétien. Et donc, ils s'appuient sur ce qu'ils ont vu ailleurs, dans leur famille ou ce qui s'est fait ailleurs. Et ce n'est pas forcément biblique. Et on part déjà avec des soucis parce qu'on part sur des mauvaises rails. Et quelquefois, si on n'est pas enseigné, bah, ça peut durer toute la vie, malheureusement. Et donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est vraiment le mariage tel qu'il a été voulu par Dieu, tel qu'il a été pensé par le Seigneur. Et vous allez voir que le mariage voulu par Dieu n'a rien à voir avec le mariage du monde. Et c'est un mariage extraordinaire.
Amen.
Amen. J'ai eu deux vies, hein, pour l'instant, j'ai deux vies. Une vie avant et une vie après. Une avant le Seigneur, une après. Et en fait, j'ai eu 18 ans de mariage dans le monde. J'ai été marié, divorcé. Et donc, je connais très bien le mariage du monde. Et j'ai connu le Seigneur et je me suis marié dans le Seigneur. Et maintenant, j'enseigne le mariage vu par le Seigneur. Et ça n'a rien à voir. C'est strictement le jour et la nuit. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux.
Amen.
Dieu a mis une merveilleuse femme à côté de moi.
Amen.
Merci Seigneur. Première chose qu'il faut réaliser, c'est que le couple est une personne. On va quitter son père, sa mère, et on va créer quelque chose de nouveau. On va créer une identité nouvelle. Et c'est un couple qu'on va créer. Parce qu'ils sont appelés à faire une seule chair. Mais c'est une personne, dans le sens qu'elle vit. Et le couple a besoin de nourriture. Le couple, il n'est pas appelé à s'éteindre. Le couple, il est appelé à vivre. Et donc, quand je comprends ça, si je prends conscience que ce que je viens de créer, le couple que je viens de créer, c'est une personne, alors je vais devoir tout faire pour ce couple-là. Je vais devoir l'entretenir, le chérir. Je vais devoir m'effacer au privilège de ce couple. Et en fait, comme l'a dit Alain tout à l'heure, je vais devoir mourir à moi-même pour ce couple. Donc le mariage, c'est vraiment un engagement. Le mariage, c'est pas comme on va le voir tout à l'heure, des choses qu'on a reçues à travers la télé, à travers les films d'Hollywood, à travers un tas de concepts. C'est pas ça du tout le mariage. On va voir ce que c'est que le mariage et déjà comprendre, avoir conscience que le couple est une personne qu'elle a besoin de vivre, qu'elle a besoin d'être entretenue. Parce que si on ne s'en occupe pas, le couple va mourir. C'est pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave, ça va venir. Le couple, il est précieux. Le couple, il a de la valeur. Le couple, il est la base de notre famille. Si le couple s'effondre, c'est la famille qui s'effondre. Il faut le chérir. Il faut l'aimer, le couple. Il faut l'aimer. Pourquoi il faut l'aimer? Parce qu'on va faire des sacrifices pour notre couple. Et oui, avant, nous étions seuls, célibataires, et on n'avait que notre petite personne à s'occuper. C'était facile. Maintenant, on a un couple, et ce couple-là va exiger de nous un investissement, un engagement. Et ça va être au prix de quelque chose. Il y a un prix à payer pour avoir ce couple en bonne santé, pour avoir ce couple qui fleurit, pour avoir ce couple qui est extraordinaire. Ça ne va pas se faire tout seul. Ça va se faire et le prix à payer, ça va être de mourir à notre ego, de mourir à notre égoïsme, au profit de l'autre. Il va y avoir une adaptation à faire au profit du couple. Parce que je ne peux plus faire comme si j'étais seul. Maintenant, je suis avec une autre personne. Et donc, je dois tenir compte de cette autre personne. Et je vous apprends quelque chose, cette autre personne, elle est différente. Et la différence, c'est pas facile. Hein? On ne comprend pas la différence. On ne comprend pas pourquoi il réagit comme ça. On ne comprend pas pourquoi il est comme ça. On ne comprend pas. Et vous savez quoi? Comme on est des têtus, on veut avoir raison. Et on pense qu'on a raison. Et donc, on va essayer de convaincre l'autre qu'on a raison. Mais ça, ce n'est pas le couple. Le couple, ce n'est pas d'avoir raison. Le couple, c'est que le couple, lui, il s'en sort gagnant. Parce que si je gagne dans le couple, eh bien, en fait, je perds. L'autre a perdu et moi, j'ai perdu parce que le couple a perdu. Donc, il y a déjà un changement de mentalité dans le couple. Je ne suis pas là pour avoir raison. Je suis là pour essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour le couple. Ça va?
Même si l'autre est pénible.
C'est le travail.
C'est un travail à faire.
C'est le travail. En fait, vous allez comprendre rapidement qu'il y a un parallèle à faire entre la vie du couple, la maturité du couple et notre évolution spirituelle. Et si vous regardez bien ce qui est écrit dans la Bible, on ne grandit dans la Bible que dans la difficulté. C'est dans la difficulté qu'on change. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de nécessité de changer. Mais c'est quand ça fait mal, c'est quand on n'en peut plus, c'est quand on est au bout du bout qu'on dit « Seigneur, je capitule et je t'obéis ». Mais il faut arriver à un point extrême. Et c'est dans la difficulté qu'on change. Et donc, comme a dit Alain tout à l'heure, le couple, c'est aussi un outil que Dieu se sert pour nous faire grandir.
Amen.
Parce que là, ce n'est pas une fois de temps en temps que vous allez avoir un mur en face de vous. C'est tous les jours. 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Et donc, à un moment là, si vous ne capitulez pas là, ça va devenir très compliqué la vie. Donc, c'est dans la difficulté qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses à changer. Et comme a dit Alain tout à l'heure, ce n'est pas l'autre qui doit changer. C'est son problème avec le Seigneur. C'est déjà moi qui dois changer.
Amen.
Et le problème, c'est comme on est têtu, on demande à l'autre de changer. Et on veut le faire changer.
Parce qu'on a raison.
Mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est très très compliqué de faire changer l'autre. Et qu'à un moment, il vaut mieux essayer de se changer soi-même.
Amen.
Il y a plus de chances que ça réussisse. Donc le couple est une personne. Première chose à réaliser. Mon couple, je dois l'entretenir. À cause de l'influence de notre société, conserver et bonifier son couple aujourd'hui, c'est un défi à relever chaque jour. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le couple, tous les jours, il y a moyen de travailler sur notre couple. Tous les jours. Il n'y a rien d'acquis dans le couple. Si vous pensez que c'est acquis une fois que vous êtes marié, les ennuis vont commencer. En fait, c'est tous les jours où on remet le métier, le travail sur le métier. Et on travaille, et on travaille, et on travaille. Rien n'est acquis dans le couple. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier sans doute, les valeurs sont tellement bousculées dans cette société que c'est compliqué de conserver et mieux de bonifier notre couple. C'est compliqué. La vie est de plus en plus difficile. Si vous regardez bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est que de plus en plus, le temps nous échappe. Ce qu'on appelle l'activisme. Moi, je considère que c'est diabolique. Parce que, en fait, on s'occupe de ton temps. Tu as toujours des choses à faire. Et en fait, tu es toujours en train de courir après le temps. Et qu'est-ce qui trinque ? En premier, le couple. Le couple passe au fur et à mesure à la traîne. Et encore, si vous n'avez pas d'enfants, vous allez peut-être réussir à vous en sortir un petit peu, à trouver du temps pour votre couple. Mais dès que les enfants vont arriver, alors le couple est encore relégué à un niveau encore un peu plus loin. Vous avez le travail, vous avez les enfants, vous avez l'église, vous avez toutes sortes de choses qui font que on est toujours en train de regarder l'heure et on est toujours en train de courir. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Toujours en train de courir pour rattraper le temps. Et donc, qu'est-ce qui va trimer? Qu'est-ce qui va être mis de côté? Deux choses. Le temps à passer avec Dieu va être mis de côté. Et le couple. Les deux choses les plus importantes de notre vie vont être reléguées un peu plus loin parce que ben, y a tellement de choses à faire qu'on va passer d'abord du temps là, on va passer là, on va passer là, on va passer là. On arrive, on commence le matin, c'est déjà la course. Alors qu'on sait qu'il faudrait qu'on prenne du temps pour le Seigneur. Mais on ne prend pas de temps. On ne part pas le matin chargé, rechargé, les batteries rechargées par le Saint-Esprit. La plupart du temps, le matin, et on n'a pas beaucoup de temps, alors on va à l'essentiel. C'est ça la vie d'aujourd'hui. Et donc c'est compliqué de préserver son couple. C'est compliqué aujourd'hui de chérir le couple et de le bonifier. Quand je discute avec des jeunes aujourd'hui du monde, bah, on arrive dans une société où pour eux, se marier, c'est pas pour la vie. C'est, aujourd'hui, c'est ça. Puis demain, bah, on verra. Il y aura peut-être une autre femme qui va se présenter. On est dans cette mentalité du jetable. Tu vois, on est sur les réseaux sociaux, on a des amis, soi-disant, des amis qu'on jette en un clic. On prend cette mentalité du jetable et en fait, bah, tout est jetable et le mariage est jetable.
On essaye.
Hein ?
On essaye.
Que
non, je disais, ben, la société, en fait, les jeunes, comme tu dis,
je comprends,
ils essayent. Ah. Essayer, c'est, voilà. Et si ça, c'est pas bon, ben voilà, on passe.
Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas trop d'efforts à faire parce que dès qu'il y a un peu trop d'efforts, on jette. D'accord ? Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est interactif, hein, l'enseignement. Vous pouvez, comme elle a l'habitude, Sandra, vous pouvez intervenir n'importe quand. Si vous n'intervenez pas, moi je continue. Mais vous pouvez intervenir. Il y a autre chose aussi que l'on voit comme problématique. L'impréparation spirituelle du mariage conduit souvent celui-ci à partir sur des mauvaises rails. Il y a très peu d'enseignements sur la préparation au mariage. Hein. Par contre, on prend beaucoup de temps pour le jour du mariage. Mais un peu moins pour se préparer au mariage. Et si on ne se prépare pas au mariage, ben on ne sait pas ce qui va se passer en réalité. On croit savoir. Et en tout cas, tous ceux que je rencontre et qui ne sont pas bien préparés, eux, ils pensent toujours que eux, ça va être différent. Nous, ça ne va pas être comme papa et maman. Parce que nous, on s'aime. Ils sont dans une pensée irréelle. Ils rentrent dans le mariage, ils sont tellement amoureux que nous, ça sera vraiment différent parce qu'on s'aime. Manque de peau, quelques années après, ils se retrouvent à faire les mêmes choses que papa et maman. Le risque, le vrai risque, de ne pas vivre le mariage comme Dieu l'a conçu, comme Dieu l'a voulu. Je vais être cash avec vous, on est des adultes, je vais vous dire exactement ce qui se passe. Le risque, c'est de voir le mariage se transformer au bout de quelques années en cohabitation. C'est ça le risque. Je ne voudrais pas être méchant, mais j'estime à plus de 90% les mariages qui sont des cohabitations. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le couple qui vit, tu vois, renouvelé par du temps pour passer ensemble, par un échange de cœur à cœur, par notre couple, il a vécu, il vit toujours, il vit. Non, ce que j'observe, c'est que chacun trace sa route, mais on vit sous le même toit. Ah oui, on a acheté la maison, on a des enfants, on est chrétien. Quand même, pas exagéré.
C'est l'amour platonique, non ?
Ouais, ça peut être l'amour. C'est l'amour qui s'est transformé, en fait, si tu veux. L'amour s'est transformé, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de relations sexuelles. Des fois, on fait chambre à part. Et on arrive à un moment où il y a... Je repose la question. Je dis, mais attendez, arrêtons-nous deux secondes. Donnez-moi le sens, là, à l'instant T. Donnez-moi le sens de votre couple. Ben, ils sont bien embêtés. Mis à part les enfants, mis à part on a des biens communs, il y a des intérêts à rester ensemble, et j'irai où, je ferai quoi? Tu vois, on a réduit le couple à une histoire d'intérêt. C'est triste. Et ça, c'est vos parents. Vous les regardez, 90% minimum des gens vivent en cohabitation. Vous les regardez, ils se font pas de bisous, ils se prennent pas par la main, au contraire, ils se tapent dessus, les réflexions de la dévalorisation. Le sport premier, c'est la dévalorisation, parce qu'il y a tellement d'années d'amertume, il y a tellement de frustration qui s'est accumulée que finalement c'est que de la dévalorisation. Oh ben toi, de toute façon t'es comme ça, ah ben toi, ah ben toi t'es pas mieux, c'est ça les couples, tu vois. Tu viens chez papa et maman, oh là là, on s'en va quand là, parce que c'est long, fatigant. C'est ça. C'est, on rigole, mais c'est triste. Parce que le mariage, il n'est pas fait pour ça. Le mariage, il n'est pas fait pour... On est amoureux, et puis au fil des années, ça décline, ça décline, ça décline, ça décline. C'est pas ça, le mariage. Le mariage, c'est on est amoureux, à l'intérieur un petit plateau, parce qu'on va redescendre sur Terre, et puis après, on le maintient, le mariage. On le développe. C'est comme le vin. Ça se bonifie. Un bon vin. Et on est heureux d'être ensemble. On a créé une intimité, on se connaît. Et on continue de partager notre intimité. On passe du temps ensemble. On verra dans les prochaines sessions comment on fait pour que le couple soit toujours un couple actif, un couple qui se bonifie. Quelles sont les clés? Comment on fait? C'est ça qui est intéressant. Que notre couple, il soit de mieux en mieux. Moi, mon couple, il va avoir 20 ans, mais je préfère les années de maintenant que mes premières années. Parce qu'on se connaît de mieux en mieux, parce qu'on s'apprécie de mieux en mieux, parce qu'on on se connaît, on fait attention à l'autre, on connaît son histoire. Donc, on a appris à faire avec, mais c'est un bonheur.
Oui. Et ce n'est pas que dans le plaisir. Je veux dire, il y a un problème, bah, écoute, je ne suis pas bien. Alors, qu'est-ce que tu as? Voilà. Ce n'est pas seulement pour prendre un café, aller au resto, la plage, voyage, hein.
C'est ça aussi.
Il y a un problème.
On ne va pas opposer les concepts. Voilà. C'est ça aussi.
C'est ça aussi.
Parce que moi, une petite vacance, ça ne me déplaît pas.
Ah oui, tu aimes ça. Mais seulement, je veux dire, quand il y a un problème aussi, on en discute.
Oui, voilà. C'est ça. On garde cette intimité. On n'est pas arrivé à un stade où, écoutez bien ce que les gens que vous allez entendre disent, ils disent, oh, de toute façon, c'est pas la peine de parler avec lui, de toute façon, il ne m'écoute pas. Mm. Ah, puis, c'est pas la peine de parler, de toute façon, elle a toujours raison. On n'en est pas arrivé à ce stade-là. Quand vous êtes arrivé à ce stade-là, vous êtes en cohabitation. Vous écoutez les gens et ils disent, bah, tu t'en as parlé à ton mari?
Oh, bon, lui, c'est pas la peine.
Ouais, c'est pas la peine, ils sont fous.
Il écoute même
pas. Ah bon, ok. C'est incroyable comment on a transformé notre couple. Comment le couple est arrivé à ça. Mais si, alors, je fais toujours la blague. Je fais, mais imagine un petit peu, c'est quand on s'est rencontrés. On était amoureux. Je te prenais par la main et je t'ai dit, tu vas voir chérie, comment ça va être chouette la vie avec moi. Tous les jours, on va se dire tout ce qui ne va pas. Tous les jours, on va se critiquer. Tous les jours, on va dire, ah ben toi, t'es comme si, oh, ça va être chouette la vie. Tu veux te marier avec moi? On se barrait vite fait, bien fait. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Pourtant, c'est ce qui se passe. Il y a une fatalité à ce que le couple soit devenu une cohabitation. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver à là.
Même dans le couple chrétien.
Mais bien sûr, il n'y a pas de différence. C'est une question de mentalité. C'est parce qu'on n'a pas su nourrir le couple. On n'a pas su faire vivre le couple. Et on n'a pas su pourquoi. Parce qu'on n'est pas enseigné. Parce qu'on ne le sait pas. Parce qu'au bout d'un moment, on copie ce qu'on voit. On essaie juste d'améliorer. Mais de temps en temps, finalement, t'es comme ton père. Ah ben, t'es comme ta mère. Voilà ce qu'on va entendre. Puis t'es comme ton père. Le scénario classique qu'on va voir ce soir, c'est ce qui arrive à 95% des couples. Et c'est basé sur des attentes irréalistes. Quand je vous dis métamorphose ce soir, c'est vraiment, il faut que vous ayez cet esprit enseignable. Il faut partir du fait, il faut que je considère le mariage, le couple autrement. Parce qu'on a des attentes irréalistes. Hein? Et les attentes irréalistes, c'est tout ce qu'on s'est mis dans notre tête. À travers les films, avant c'était les romans à l'eau de rose. Hein? À travers tout ce qu'on peut voir, on se figure des choses dans notre tête. On se les imagine. Notamment, le premier qu'on va voir, c'est quand on est amoureux, on ne voit pas l'autre tel qu'il est. Tu vois? On se dit que tout ce qui me manque va être comblé par l'autre. Mais c'est inconscient. Tu vois, je rencontre le prince charmant et franchement, oh, il m'aime. Oh là là. Et comme il m'aime, ben, il va m'apporter tout ce que j'ai besoin, tous les manques, toutes les carences que j'ai eues, tout ce que j'ai pas eu avec papa, tout ce que j'ai pas eu avec maman. Oh, la petite fille qui est au fond de moi qui crie. Ah, avec lui là, ah, va être comblé. Ça va être merveilleux.
Ça peut être dans les deux sens.
Mais bien sûr, maintenant je vais faire pour le garçon. Le garçon qui dit, elle est tellement belle. Mais attends, tu vas voir les scénarios.
D'accord.
C'est tellement réaliste les scénarios. Tu vois, on va y arriver. Irlande, calme. Prends ton temps. Ne t'excite pas. Regarde la première phase. Ça, c'est la phase amoureuse. La phase Eros, tu vois, c'est le début de la rencontre. Alors là, c'est le top du top. Regarde un peu ce qui se passe. Oh, il a que des qualités. Il est merveilleux. Il n'a que des qualités. Oh, regarde ça. Oh, elle est trop belle. C'est un ange. Ça, c'est la première phase. C'est l'homme que je cherchais. Oh, c'est la femme de mes rêves. Mais j'ai beau chercher des défauts, elle n'en a pas. Si tu t'entends ça d'une copine, tu dis, oh là là, la pauvre, elle est en danger. Mais en fait, tout le monde y passe plus ou moins. Bon, c'est Eros. Toutes les personnes qui sont mariées depuis longtemps sourient parce que tout le monde y a cru, à cet amour-là. Tout le monde a dit, j'ai rencontré le prince charmant. Ah, oh, j'ai rencontré la femme de mes rêves. On y a cru. En réalité, cette phase-là révèle notre côté égocentrique. Et égoïste. On est en pleine cure d'égoïsme. Tu vois, c'est tout ce qu'elle va m'apporter. Tu vois, les attentes irréalistes, ça commence comme ça. On nourrit notre cerveau en disant, oh là là, oh, vivement qu'on se marie, oh là là, ça va être génial. Tu es en train de voir tout ce que l'autre pourrait t'apporter dans ta tête, dans ton film. Ben oui, parce que tu fais le rapport entre l'amour qu'il a pour toi, donc forcément, dans ta naïveté suprême, avec cet amour-là, oh la vache, ça va être bon, oh là là. Tu vois, c'est le piège, il est là. Commence là, le piège. Mais, parce qu'il y a un mais dans l'histoire, le mariage rend la vie. C'est que là, on se voyait pour les bons moments, on n'était pas ensemble tous les jours, tu vois. Donc je ne vois qu'une facette de l'autre, et l'autre me montre la plus belle des facettes. Mais là, le mariage qui rend la vue, c'est tous les jours que je l'ai devant moi, et là, c'est plus pareil. C'est qui cette personne qui est devant moi? Statistiquement, le coup de foudre ne dure que 2 ans. Et ça, c'est le maxi.
Quel dommage.
Ah oui. Mais non, parce que sinon, tous les 2 ans, il faudrait changer, tu vois. Donc, ça devient compliqué, tu vois. Donc, le coup de foudre, il ne dure que 2 ans. Donc, faut en profiter, hein, si vraiment on veut vivre sur le coup de foudre. Profites-en bien, parce que dans 2 ans, ça va te faire drôle. Alors, il y en a, ça ne dure pas 2 ans. Il y en a, au bout de 6 mois, c'est déjà le bazar.
Dans 2 ans, tu prends la foudre.
Ouais, c'est ça. Tu prends la foudre. Là, c'est ça, la foudre. C'est le désenchantement. C'est la deuxième phase. Donc, la première phase, on est monté très, très haut. Et attention, vous connaissez l'adage. Plus on monte haut, plus la chute est dure. Elle fait mal. Donc, il y en a qui montent très, très haut. Et là, la chute va être raide. Désenchantement. Tu n'as que des défauts. C'est fini. Désenchantement. Le gars. Oh, Seigneur, mais qui tu as mis à mes côtés? On commence à voir l'autre tel qu'il est. Bien souvent, cette phase-là arrive après quelques mois de vie à deux. Parfois, elle se manifeste un peu plus tard. Mais l'accumulation des déceptions et des frustrations, elle arrive avec un temps où finalement, ben, je suis déçu. C'est la porte de la déception qui s'est ouverte, parce que entre ce que je m'étais imaginé, entre les promesses qu'il m'a faites, ou que je me suis imaginé aussi, l'interprétation des choses, et puis aujourd'hui, ce que je vois, j'ai été trompé sur la marchandise. Ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas de SAV, il n'y a pas de retour à l'envoyeur. Donc il y a intérêt de bien regarder avant, parce qu'il n'y a plus possibilité de renvoyer le paquet.
Ah si, on m'a fait reprendre.
Et ce qui est dramatique, c'est que c'est lors de cette phase que la plupart des mariages s'effondrent. Et c'est pour ça que des fois, vous dites, mais ils viennent de se marier il n'y a pas longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait même pas un an qu'ils sont mariés. On a un écart. Ça fait même pas un an qu'ils sont mariés. Ils parlent déjà de divorce.
Mais ils ont pas fait
là. Tu vois? Et ça, c'est le résultat entre eux et le toboggan. Et arrivé là, ben ils s'en remettent pas.
Et pourquoi ?
Ben parce que ils ont pas été enseignés. Tu vois, ils étaient dans un film. Ils se disaient, nous, ça nous arrivera pas. Tu vois ? Ils étaient dans cette bulle là où papa et maman, eux, nous, ça jamais. On s'aime trop pour ça. Même si cette phase est l'inverse de la première, elle est tout aussi irréaliste. Elle n'est pas vraie. La première phase était fausse, vous avez bien compris. Mais la deuxième phase, elle est fausse aussi. D'accord ? On ne voit maintenant que les mauvais côtés et les défauts de l'autre. Frustration, agressivité, colère, douleur, souffrance, désillusion, sentiment de trahison sont les caractéristiques de cette phase. Je suis déçu. Il n'était pas comme ça avant le mariage. Si, il a toujours été comme ça. Sauf que c'était une phase que tu ne voyais pas. Ouais, ouais. Tu la découvres au fur et à mesure. Et où ? Dans la difficulté. Il faut peser un peu sur la queue, comme dit Créole. Pèse sur la queue pour voir comment il réagit, le gars. On va voir s'il est toujours calme. C'est dans les périodes de stress, dans les périodes où le petit gars, il a pu la maman qui s'occupe de lui pour faire ses tartines. C'est dans les moments où ça va plus, là. C'est là que ça se complique. Et c'est là que le travail va commencer. Parce que dans la première phase, il n'y a pas de travail à faire. Dans la première phase, Eros. Tout est beau. J'aurais jamais pensé qu'il était... Je vous laisse mettre le reste. Comment ai-je fait pour ne pas voir tous ces défauts avant ? Nous arrivons maintenant à la troisième phase. Nous sommes alors à un tournant crucial de notre mariage. Parce que, comme on a dit, beaucoup de mariages s'effondrent à la deuxième phase. Donc, on a la première, on a la deuxième, et on arrive à la troisième phase, et là, c'est un moment crucial. Il y en a qui vont abandonner, il y en a qui vont jeter l'éponge, et puis il y en a qui vont remonter la pente. C'est ça, la troisième phase. Hein? Donc on a le mariage, pendant les premières années, c'est ça. Tac, tac, et là, il y en a qui arrêtent là, il y en a qui divorcent, il y en a qui arrivent à remonter la pente, et ils vont trouver une phase intermédiaire entre cette phase irréaliste et cette phase irréaliste. Là, on arrive là. Et comme j'ai mis, en route pour la maturité. On commence à grandir. On arrête de vivre dans la désillusion. Mais c'est bien d'être prévenu parce que arrivé là, il y a déjà beaucoup de choses d'accumuler. Des frustrations, des déceptions, des trahisons. En fait, le couple s'est déjà blessé. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait ces enseignements de donner avant, parce que des fois, le mal est déjà fait. Le mal est fait. La troisième phase, c'est la phase...
Oui. C'est pas obligé que ça se passe comme ça.
Ah, ça là, ça c'est 95% des couples. Ah oui.
Ouais. Nous, on l'a vécu.
Non mais je t'assure, hein, c'est 95% des couples. Il y a la première phase, tu vois, t'es amoureuse. Tu vois, t'es amoureuse, parce que si t'es pas amoureux, je sais pas pourquoi tu te maries, tu vois. Donc t'es amoureuse, et le fait d'être amoureux, c'est comme un voile. Tu vois, tu ne vois pas l'autre tel qu'il est. C'est comme ça. Et puis la deuxième phase, ben, c'est quand tu vis avec. Tu vois, tu vis avec, et là, ben, tu vois que c'est pas tout à fait ce que t'avais vu. Tu vois. Donc, il faut une troisième phase. Pour dire, bon, il n'est pas pire que ça. Il est pas ça, mais il n'est pas ça non plus. D'accord ? Et ça, c'est une blessure. Ça, c'est très variable. C'est très variable, mais on va dire qu'on est à peu près sur 2-3 ans, là. C'est les premières années du mariage. Tu vois ? 2-3 ans. Ben, là, oui, elle est variable. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ici. Le problème, il est là.
Oui, ça, mais si tu passes cette étape-là, c'est en gros 5 ans.
Ouais, ouais. On peut tenir jusque-là.
Ça dépend des couples.
Bah, ouais, ça dépend des couples. Il y a pas de, on ne peut pas dire que c'est pareil pour tout le monde. On est tous différents. Par contre, ce que je veux attirer votre attention, c'est là, là. Ici, là. Ça peut être très. L'avenir peut être compromis. C'est-à-dire qu'on peut être là, mais si on ne soigne pas là, Ici, là, on risque d'aller vers de la cohabitation. C'est ça le problème. Donc, il faut bien prendre conscience. Et c'est pour ça que la préparation au mariage peut éviter de tomber si bas que ça et de moins se blesser. C'est ça le truc, quoi. Mais si tu n'as pas été préparé à ça, là, ce que tu vas générer ici, alors c'est les 5 blessures de la vie, mais comme on est déjà blessé, tu vois, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on parle de restauration. Dans le vase restauré, on apprend que nous avons 5 blessures de la vie, hein, qui sont trahison. La trahison, tu vois, hein, c'est la trahison, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est l'injustice, c'est l'humiliation. Tout le monde vit ça. Ce n'est pas de notre faute, hein, on n'a pas demandé, c'est le péché qui a voulu ça. Et donc, quand on rencontre quelqu'un, inconsciemment, on espère que tout ce qu'on a subi, eh ben, ça va être corrigé par cet amour qui vient de l'autre. C'est la première erreur, tu vois. Et donc, on comprend bien que quand on arrive dans le mariage et qu'on est là, qu'est-ce qui se passe? On est trahi. Dire, mais là, j'attendais tellement de lui, mais j'attendais tellement d'elle, et puis finalement, c'est encore pire. C'est pire. Je fais quoi, là?
Ben, je crie à Dieu.
Si, oui, mais attends, après, on va venir là-dessus. T'es trop pressé, là. Quand on est là, soit on se fait aider, c'est ça la relation d'elle, soit on se fait aider. Pourquoi? Parce que ben, il va falloir prendre un petit peu de temps pour guérir tout ça. Mais si on regarde pas nos blessures et on rattaque directement la troisième phase et que le couple ne s'entretient pas, c'est-à-dire qu'on va avoir tout ce qu'il faut pour l'entretien du couple, eh ben vous pouvez avoir un couple qui est parti là-dessus. Et c'est parti pour
des années.
Voilà. On sera ensemble, hein, mais sous un mode de cohabitation.
Si on a vécu déjà un mariage, pour moi, j'ai vécu la première phase et malheureusement la deuxième phase, je suis resté au fond. Divorce. J'ai connu ma merveilleuse femme.
On recommence.
On a chuté.
Ouais. Deuxième.
L'expérience de mon premier mariage fait.
T'as aidé à faire la troisième.
T'as aidé. Et c'est surtout que j'ai eu une femme merveilleuse qui m'a supporté.
Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est que pour comprendre cette troisième phase, on est obligé de passer par un divorce. C'est pas terrible, hein?
Non.
Tu vois, c'est là qu'on voit qu'il y a un sacré problème. Bon, continuons. Donc, on va arriver à la troisième phase. Et qu'est-ce qui se passe à la troisième phase? Attention, mon coco, je commence à te connaître. Tu vois? Et lui aussi, il dit, moi aussi je te connais. Bon, ça y est, on commence à sortir, tu vois, de Hollywood, tu vois. Et on revient sur Terre et on fait, et c'est fini, hein, on joue plus là, on rigole plus. Chacun des conjoints réalise maintenant que l'un et l'autre ont des défauts, mais aussi des qualités. On va pouvoir repartir, parce que là, tout n'est pas aussi sombre qu'on l'a eu. Parce que là, le problème, c'est qu'on vit dans les émotions. Comprenez, quand on est là, faut surtout pas prendre de décision. Très, très mauvais. Parce que ça, on est conduit par les émotions. Et conduit par les émotions, autant là, l'amour rend aveugle, que autant la déception rend aveugle. Donc quand on est là, faut pas bouger le bateau. Prenons un petit peu de temps. Parce qu'il va falloir y voir clair. Et là, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion et qui a du recul et qui dit oh, attends, quand tu l'as connu, il y avait quand même des bonnes choses. Il n'y avait pas que du mauvais. Mais tout n'était pas mensonge. Donc on va pouvoir rétablir la vérité. C'est la maturité douloureusement acquise qui leur fait voir l'autre tel qu'il est réellement. Et non pas tel qu'ils auraient voulu qu'il soit. Ça y est, on rentre dans le travail, on rentre dans la réalité. Je le voulais comme ça. Ah oui, mais il n'est pas comme ça. Il est comme ça. Et toi, t'es pas mieux. Il te voulait comme ça, et puis t'es comme ça. Match nul, balle au centre. Fini les scénarios à l'eau de rose. C'est la fin du prince charmant sur son beau cheval blanc qui vient prendre la belle princesse.
Fais le cheval, j'aime bien.
C'est fini. Il y a le cheval. Je l'ai fait plusieurs fois. Cheval. J'essaie de temps en temps de faire le cheval. Que nous révèle le scénario que tout le monde connaît? Qu'est-ce que ça nous révèle? Quand deux êtres se rencontrent, ce sont deux histoires qui se rencontrent, c'est deux vies avec chacun ses bagages. On ne connaît pas l'histoire de l'autre parfaitement. Mais nous avons des bagages, et ce sont des bagages émotionnels. On est chargé avec nos blessures du passé. On est chargé avec nos carences. Hein? Et là, on ne sait pas qu'indirectement, on a mis sur la tête de l'autre beaucoup de pression. Ben oui. Tu vas combler mes carences. Tu vas me guérir de toutes mes blessures. En fait, tu sais ce que tu es devenu? Tu es mon sauveur. Tu es là le mec qui fait « Oh, je ne veux pas être ton sauveur. Je ne veux pas être ton sauveur. » C'est ça qui se passe.
Je suis pas
tu
vois? Dieu.
Et lui, pareil. Il dit « Oh, tu es tout ce que j'ai voulu. Tu es ma femme et ma maman en même temps. » Donc, il y a besoin de mettre les bagages à jour. Ces bagages sont souvent symbolisés par nos blessures. À cause du péché sur cette terre, personne ne peut échapper à la dure réalité de cette vie, les blessures. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un acronyme pour ça, c'est trahi. Et tout le monde passe par la trahison, par le rejet, par l'abandon, par l'humiliation et par l'injustice. Et quand beaucoup de gens pensent qu'avec le mariage, tout ça, ça va se résoudre. Mais rien du tout. Au contraire. On l'a vu là, avec la deuxième phase, on en reprend une couche. Eh oui, parce qu'on se blesse. Parce qu'on n'est pas restauré. Parce qu'on n'est pas encore guéri. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, les gens blessés blessent les gens. Et donc, on se retrouve à se blesser. Et là, dans notre naïveté, on ne comprend pas. On dit, mais si, il m'aime, il ne devrait pas me faire mal. Et ça, c'est utopique. Ça, c'est Hollywood. Ce n'est pas la Bible. La Bible, ce n'est pas ça. La Bible, c'est Romains 8 qui dit, le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Et le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Ça, c'est la vérité. C'est ça, la vérité. Hélas. Mais oui. Mais gloire s'est rendue à Dieu. Qui me délivrera de ce corps de chair? Amen. Jésus-Christ. Donc, là, tu vois, si on n'est pas enseigné, ben, on prend ça en pleine figure et on ne comprend plus rien. Et là, on va commencer à dire, tu sais, je me suis trompé. J'ai pas pris le bon. Oh là, je me suis trompé, mauvais tirage au sort là, mauvais casting. Mais non, t'as pas compris. Ça sera un autre, ça sera peut-être pareil ou pire. C'est pas le problème de l'autre, c'est toi le problème. Là, ça commence à faire mal. Parce que on a tellement envie de dire, s'il était différent, s'il était comme moi je veux. Commence à penser comme ça, commence à dire c'est l'autre la faute.
C'est ça que Dieu nous a fait différent.
Ben oui, parce qu'on va se compléter. Voilà. C'est ça le couple. Le couple, c'est pas une bagarre. Le couple, c'est pas j'ai raison, t'as tort. Le couple, c'est une complétude. Tu comprends? Il nous manque, nous, le côté féminin, et les femmes, il leur manque le côté masculin. Mais les deux ensemble, ça se complète. Mais on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus en train de se bagarrer. On n'est plus en train de dire c'est ta faute. T'es trop méchant avec moi. Et puis l'autre renvoie la même chose. Ta, 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 ta. Mais à ce rythme-là, 5-6 ans, pas plus. Hein. Dans 5-6 ans, c'est le divorce ou la cohabitation chambre à part. 6
ans.
6 ans. Tu vois, tu es dans la moyenne. Bon, on continue. Ces blessures ont largement influencé la construction de notre personnalité et ont, d'une certaine manière, formaté nos comportements dans nos relations. Et là, on le découvre. On découvre, on commence à habiter ensemble, on commence à voir tous les problèmes que l'autre, il a. Tu vois, c'est un manque d'intimité. Le gars, il a du mal à rentrer dans l'intimité. Pourquoi? Parce qu'il est tellement blessé qu'en fait, on appelle ça le cœur orphelin. Il a fermé son cœur par rapport aux blessures. Parce qu'on dit que, on s'imagine que le fait que je ferme mon cœur, ben je vais me protéger. Je me protège des autres. Ouais, mais tu t'enfermes dans une tour d'ivoire. T'es plus capable de rentrer dans les sentiments avec l'autre, d'avoir de l'intimité. Et donc on est mal dans l'intimité. On est mal. Il n'y a pas cette relation sexuelle épanouie, tu vois, où on parle de tout librement. Non, on est fermé à tout et la femme est malheureuse parce qu'elle, elle communique et elle voudrait que son mari communique, mais l'autre dit, parle pas. Elle est tellement fermée, a tellement fermé son cœur, il parle pas. Et puis là, elle commence à dire, ah oui, mais chez nous, on parlait pas. Ah ouais, tiens, je croyais que tu voulais un couple différent de ton père. C'est ça qui se passe. Et là, ça commence la frustration. On va aller voir la copine, on va aller voir maman. T'es maman, mais je comprends pas, il parle pas. Pourtant, avant le mariage, je t'assure qu'il parlait. Incroyable. C'est de la méfiance, c'est de la suspicion, tu vois. En fait, la relation commence à se tendre. Parce qu'on n'est pas guéri de nos blessures. Et comme a dit Alain tout à l'heure, le mariage vient juste mettre en lumière tout ce qui ne va pas en nous. C'est pour ça que c'est violent le mariage. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec l'autre, bam! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il ronfle. Merde, ça existe? Un gars qui ronfle, dis donc. L'autre, mais pourquoi elle cause autant le matin comme ça? Laisse-moi me réveiller.
Il ronfle.
Son café. Elle parle ou pas? On fait quoi, chérie, aujourd'hui? Attends, je suis pas encore réveillé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est violent. Ces manières de fonctionner nous ont sans doute permis de survivre dans ce monde déchu avant le mariage. On a eu des systèmes de défense. Tu vois, c'est cette façon de se fermer, cette façon de se méfier, tout ça, ça a servi comme une protection. Et pour certains, dans des familles très dysfonctionnelles, ça a été un mode de survie. Tu vois. Mais par contre, ça c'est un monde, c'est une survie, tu vois. Mais on n'a pas réglé nos problèmes de fond. Et on n'est pas appelé à ça. C'est ça le problème. C'est que le mariage ne peut pas fonctionner dans ces conditions-là. Il va falloir faire une métamorphose. Il va falloir changer le mind, comme disent les Anglais. Il va falloir changer l'intelligence. Tes raisonnements, tes conceptions. Il va falloir que tu apprennes à t'ouvrir à nouveau.
Et ce n'est pas l'autre qui change, c'est la personne.
Chaque personne doit changer. Chaque personne a ses propres problèmes à régler. Et l'autre n'est pas Dieu. C'est toi, on va le voir tout à l'heure, c'est toi, dans ta relation avec Dieu, qui va régler tes problèmes. Et l'autre va régler ses problèmes. Mais il faut mettre Dieu dans l'équation. Si tu ne mets pas Dieu dans l'équation, tu n'as que des arguments humains. Tu n'as que des ressources humaines. Et ça ne va pas aller loin. Et c'est là qu'on va voir que la corde à trois fils, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne se rompt pas facilement. Parce que quand tu es en confrontation avec l'autre, c'est pas avec l'autre que tu dois te battre. Tu dois aller dans ta chambre, voir le Seigneur et pleurer auprès de Dieu.
Et ça marche.
Et de dire, Seigneur, regarde mon cœur dans quel état il est.
Oui.
Et là, regarde Seigneur, je suis malheureux. Tu peux faire ton caliméro avec Dieu.
Oui, je fais.
Dieu t'écoute. Oui. Et là, tu viens voir Dieu et tu lui dis, Seigneur, t'es le mari que tu m'as mis. Non, Seigneur, c'est pas possible. Faut changer, mon gars. Faut changer.
Et alors, quand c'est comme ça, souvent, en fait, je reviens. Ça, c'était les débuts du mariage. Et puis, je te prends dans mes bras et je te dis simplement, je t'aime. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré avant? Waouh! Wow. Et ça marche.
Et ça marche, mais attends. Ça marche si tu persévères. Parce qu'au départ, comme le gars est dur, cœur d'orphelin, le gars est dur, le cœur est fermé. Tu vois? Et qu'est-ce qui se passe quand le cœur est fermé? Il y en a qui vont me comprendre là, parce qu'ils l'ont vécu. Quand le cœur est fermé et que tu as été irrité, que tu as été, on est venu chercher une corde sensible en toi. Comme ton cœur est fermé, il ne se desserre pas facilement, il reste fermé. Toi, tu viens et tu viens lui faire un câlin. Et lui, il est comme ça, il est fermé. Il faut le temps de... Attends, laisse-moi. Et le gars, il a besoin d'aller dans sa grotte, tu vois, juste pour déchirer un peu le truc. Et après, ça va mieux.
Ils sont vraiment différents, hein.
Hein?
Hein?
Mais oui, mais c'est ça la vérité! Mais c'est la réalité! Mais c'est ça! En fait, on se rend pas compte que, Seigneur, il faut guérir toutes mes blessures parce qu'il faut que je sois capable d'aimer à nouveau. Il faut que je sois capable. Sinon, il n'y aura pas d'intimité. Sinon, il n'y aura pas la naissance de ce couple qui s'arrose continuellement et qui est sur la même longueur d'onde. On va être deux étrangers dans une même maison avec des cœurs d'orphelins. Parce qu'on n'a pas été adoptés encore dans le Seigneur. On n'est pas capable d'aller se plonger dans les bras d'amour du Seigneur pour dire « T'es Seigneur, change-moi. Qu'est-ce que je suis dur. T'es Seigneur, regarde, moi je suis nerveux. Là. Regarde, Seigneur, comment je suis là. » On a besoin de cette humilité là. On a besoin d'aller voir le Seigneur pour changer notre cœur dur. Tu vois? Mais c'est pas ça qu'on fait. On fait pas ça. On prend...
Zoro.
Tu m'attaques là, viens là, viens-y. C'est comme ça qu'on fait. Viens-y. Moi je suis me défendre, moi t'inquiète pas. Ouais, ça fait 20 ans, 30 ans que tu te défends tout seul. Donc ça, y a pas de problème pour ça, c'est facile. Mais ouvrir ton cœur, dire pardon chéri, et se prendre dans les bras.
C'est tellement bon.
Ah, c'est tellement bon, mais c'est tellement compliqué pour quelqu'un qui a un cœur fermé.
Ah
oui. Ah.
Il y en a qui se renferment.
C'est facile dans la théorie. Dieu est amour et c'est tout. Mais oui, mais quand là, t'es bien piqué au vif là. Hein, quand l'autre est venu te chercher, puis que tu pignot de piqué là. On va voir si tu. Amour. Tu me touches, toi.
Ou bien, qu'est-ce que tu. On fait aussi souvent, on se renferme.
Hein. C'est ça. On va dans sa grotte.
On va dans sa grotte.
Laisse-moi tranquille.
Rhinocéros.
Dans la grotte.
Bertrand.
Yes.
J'ai une question.
Vas-y.
On parle de métamorphose, on parle de couple, non, on parle de.
De changement. De transformation.
De
ouais.
La personne. Effectivement, ce sont des vérités. Mais la personne qui entend et qui met en pratique, et l'autre qui n'entend pas ou qui ne met pas en pratique,
ça ne marche pas.
Est-ce que ça va le coup quand même restaurer? Est-ce que ça va marcher?
Non, ça ne marchera pas. Tu vas t'épuiser. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur, il a dit, il n'est pas fou le Seigneur, il a dit, ne te mets pas sous un joug étranger. Ça veut dire qu'il faut qu'on partage la même foi. C'est la base. On doit partager la même foi, le même Seigneur. Parce que les deux doivent travailler en même temps. D'accord? Un couple, on va y venir tout à l'heure. J'avance un peu là, je te le dis. Je vais prendre tout à l'heure l'image d'un lopin de terre, un jardin. Tu vois? Et le jardin là, il faut qu'il soit travaillé à deux. Il n'y en a pas un qui est en train d'arracher les mauvaises herbes. Et puis l'autre qui est dans son transat avec la bière, puis qui dit « Ça va chérie, tu te débrouilles bien avec les mauvaises herbes ?» et qui boit sa bière. Ça ne marche pas. Il faut que le gars, il pose sa bière, il aille arracher les mauvaises herbes. Parce que lui aussi, il en a des mauvaises herbes. Et elle aussi, elle en a des mauvaises herbes. Donc, c'est ça qu'on va voir. Le couple, c'est pour ça que le couple, il ne faut pas se voir nous et l'autre. Il y a une troisième personne qui est là. C'est le couple. Donc, c'est pas moi contre toi, c'est tous les deux pour le couple. Et si on n'a pas compris ça, on va se planter, mais royalement. Il faut penser qu'on est là pour travailler pour notre couple.
Amen.
Amen. J'aurais dû avoir un gros amen, là. Hein. Amen, amen, amen.
Un, deux, trois, mais amen.
Vous n'allez pas dormir avec moi, je vous le dis, moi. Manque d'amour. Profonde insécurité au fond de nous, cachée souvent par un fort ego. Mauvaise estime de soi. Tout ça qui va ressortir, tu vois, dans les conflits, dans les irritations, dans tout ce qui ne va pas. L'autre a fait comme ça, et qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Mais c'est tout ça qui se passe en toi. Difficulté à faire confiance à l'autre. Ou encore un besoin d'amour qui va progressivement étouffer l'autre. Tu peux aussi avoir l'effet contraire. Tu peux avoir la personne qui est dépendante affective et là qui étouffe l'autre tellement qu'elle a besoin. Tu as ça aussi. Jalousie maladive. Il y a des exemples de colère, irritabilité, manque de communication qui entraîne des difficultés à créer une intimité. Et j'aurais pu continuer, j'aurais pu en mettre encore deux pages. On a tellement de dysfonctionnements en nous. Et chacun a ses dysfonctionnements. Comme je dis toujours, le péché nous a tous touchés, mais pas de la même manière. On a tous des failles. À cela, tu rajoutes ton hérédité. À cela, tu rajoutes ton éducation dans la famille où tu es né. Ça fait une sacrée marmite. Hein. Il y en a dans la marmite. Hein.
Bah ouais,
c'est une
et tout ça, c'est en toi. Et là, le mariage révèle tout ça. Donc si tu vois mal les choses, eh ben, tu restes là-dessus et tu rends l'autre responsable de t'avoir mis en colère. Ça, c'est l'histoire du mec qui a tapé sa femme, puis qui dit « Oui, mais écoute, elle m'a énervé. »
Tu l'as cherché.
Elle l'a bien cherché. Ça, c'est une caricature. Tu vois, c'est la faute de l'autre. Non, tu as des problèmes. Mets-les à jour. Tu es venu au Seigneur. Le Seigneur va te restaurer.
Amen.
Mets-les à jour. D'accord ? Et c'est comme ça que tu vas petit à petit apporter du bien dans ton couple. Il y a un nettoyage à faire, il y a du travail. Tout cela n'est pas visible au départ. Et cela peut prendre un certain temps avant de découvrir tous les bagages. Du moins jusqu'au jour où nous vivons à deux, sous le même toit, 24 heures sur 24. Et là, on se demande si la personne que nous avons épousée est bien celle qui est à côté de nous. Et c'est en vivant à deux que nos dysfonctionnements, les conséquences de nos blessures, vont apparaître au grand jour. Et bien souvent, nous n'avons pas vu toutes ces choses avant le mariage ou nous n'avons pas voulu les voir. Parce qu'on s'est dit, avec l'amour, tout est possible, n'est-ce pas ? Ça va s'améliorer. Eh oui, parce que quand tu montes tout ça avant de se marier, il y a des gens qui ne viennent plus te voir. Parce qu'ils disent, il est en train de me décourager de me marier. Non, non, je suis juste en train de te dire, regarde bien. Après, personne n'est parfait. Hein, on va bien épouser quelqu'un qui n'est pas parfait. Mais regarde bien si tu es OK. Viens pas pleurer après. Et c'est pour ça que je dis, dans les préparations au mariage, je dis, il faut étirer le mariage. Tu vois, il faut aller jusqu'à au moins un an. Un an de fiançailles. Pourquoi ? Parce que pendant un an, alors peut-être que comme je suis aveugle, j'aurais peut-être du mal à voir, mais enfin bon, je peux voir des choses, mais surtout, les gens qui m'aiment vont voir des choses que moi, je ne vois pas. D'accord ? Et c'est là qu'il faudra que je sois enseignable. C'est là qu'il faudra que je dise, oula, ok, d'accord, il a ce problème-là, il a ce problème-là. C'est pas très grave, bon, sauf si c'est des problèmes bon, qui peuvent atteindre la psychiatrie, il faut faire gaffe, quoi, tu vois, parce que c'est compliqué. Mais si c'est des problèmes de jalousie, des problèmes, bon, ça peut être de la pornographie, ça peut être des trucs, bon, on peut espérer qu'avec une bonne communion avec le Seigneur, tout ça va s'améliorer. Mais il faut que le gars soit accroché à Dieu. Il faut que ça soit un disciple. Hein? Parce que si c'est juste un gars qui vient aux réunions, mais que le gars, il n'est pas disciple, il n'est pas transformé à l'intérieur, là, je peux vous dire, il ne se passera rien. Si le gars touche à la pornographie et entre nous, la pornographie, c'est 9 personnes sur 10 aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc, le gars, il touche à la pornographie avant le mariage. Croyez pas qu'après, qu'il pourra faire l'amour avec vous, il n'aura plus ce problème-là de pornographie. Il l'aura toujours.
D'accord ? Sauf si
s'il est infidèle pendant les fiançailles, il sera infidèle après. Je veux dire que les dysfonctionnements, ils ne s'en vont pas comme ça par magie. C'est un travail. C'est un travail. En attendant que le travail se fasse, est-ce que je suis capable de supporter ces dysfonctionnements-là ? La question, elle est là. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour que ça soit guéri. Un an, 2 ans, 10 ans, on ne sait pas. Est-ce que je suis capable de supporter tout ça ? Il faut se poser des bonnes questions. Parce qu'après, c'est trop tard. Ça va ?
Amen.
Vous êtes toujours là ? Vous n'êtes pas parti ?
Mais après, il faut avoir aussi des bons conseils.
Ça, oui, il faut avoir les... Oui, tout à fait.
Tout à l'heure, tu as dit, oui, il faut étirer
ouais.
Le temps de se connaître, etc. Mm. Et après, il y a des gens aussi qui ont dit, ça fait quand même un an que vous êtes ensemble, etc.
Non, ça ne les regarde voilà. Pas. Ça ne les regarde pas.
Même au ouais, mais... niveau... Voilà,
ouais, non, mais ça c'est ta vie. Je veux dire
je
que...
Dis ça, hein.
Oui, oui, non, mais je sais. Mais après, c'est à nous aussi. Je comprends ce que tu dis, Sandra. Mais c'est à nous aussi de ne pas être influencés par des personnes qui auraient un jugement qui n'a pas lieu d'être. Ça les regarde en quoi que tu prennes 12 mois ou que tu prennes 15 mois pour te fiancer. C'est quoi le problème ? D'accord ? C'est pas, ils ont quel problème ces gens-là ? Ça va changer quoi pour eux que tu te maries à 12 mois ou que tu te maries à 15 mois ? Qu'est-ce que ça va changer pour eux ? D'accord ? Si toi, tu sens dans ton cœur que tu as encore besoin de temps, ben, tu prends ton temps. Et on se marie, si on fait bien les choses, on se marie, si Dieu nous prête vie, c'est pas... Tu sais, pour moi, le mariage, c'est la deuxième chose, le choix après Dieu. Première chose, Dieu. Après le mariage. C'est pas un petit choix. Hein. Alors, juste pour vous dire, vous voyez, quand on rencontre quelqu'un, on ne connaît pas tout de lui et c'est normal. Hein. On appelle ça, pour ceux qui sont habitués dans le vase restauré, on appelle ça la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, c'est 4 carreaux, tu vois. Hein. Et celle-ci est abondamment utilisée dans la sphère de la communication afin de mieux comprendre la nature humaine, c'est-à-dire comment l'être humain fonctionne. Okay ? Et on s'aperçoit que le premier carreau est ouvert, c'est-à-dire c'est ce que je montre aux autres, c'est ce que les autres connaissent de moi, ça va. Par contre, là, c'est ce que je ne vois pas, d'accord ? C'est ce que j'ai des problèmes. Et souvent, un dysfonctionnement, il a une particularité. C'est qu'un dysfonctionnement, je ne le vois pas. Les autres le voient, mais moi, je ne le vois pas. Et quand on me dit, non, n'importe quoi. D'accord ? C'est ça le propre d'un dysfonctionnement. Par contre, voilà, les conséquences du péché, et c'est ça que tu vas découvrir au fur et à mesure de la vie à deux, tu vois. Ça, c'est ce que la personne t'a caché pendant les relations, et que tu n'as peut-être pas vu, d'accord. Et puis, il y a aussi une partie qui va venir au fur et à mesure, qui va se révéler sans doute dans le mariage, que je n'avais pas vu avant. C'est des choses qui sont en moi et qui ont été révélées pendant le mariage. Donc, vous voyez, un être humain, on peut dire que c'est complexe. Après cette troisième phase, pour ceux qui ont réussi à traverser les deux premières, les époux réalisent que la mise en place d'une relation heureuse et épanouie requiert du réalisme. Ton conjoint n'est pas ton sauveur. Amen. Il faut juste le mettre à la bonne place. Ce n'est pas lui qui va compenser toutes les carences que tu as eues étant petit. Ce n'est pas lui qui va, en clair, ce n'est pas lui qui va te rendre heureux ou heureuse. Il faut enlever le mythe. Parce qu'il y a un mythe, c'est que quand je vais me marier, enfin, je vais pouvoir être heureux. Ben mon gars, ou ma fille, accroche-toi Jeannot, parce que je peux te dire, si tu comptes là-dessus pour être heureux, ça va te faire drôle. Non, c'est pas du tout ça. En fait, si tu veux, le mariage apporte un épanouissement, apporte, s'il est bien mené, parce que ça peut être l'enfer. Et s'il est bien mené comme il faut, ça va t'apporter du bien-être. Amen. Et la parole de Dieu te dit, il n'est pas bon pour l'homme, avec un grand H, d'être seul. Hein, on partage des choses. On a été fait pour aimer et être aimé. Et donc, il n'y a pas mieux que la cellule du mariage, le couple, pour exprimer toute cette intimité, cette sexualité quand on se marie. Et là, c'est tellement très intime qu'il n'y a pas plus fort pour aimer et être aimé. Tu comprends ? Donc, on a besoin de ça. Mais en aucun cas, ça a été prévu pour vraiment que tu sois heureux, dans le sens que c'est ce qui va venir régler tous tes problèmes intérieurs. Ce n'est pas la fonction du mariage. Donc déjà, il faut enlever ce mythe-là. Ça va apporter du bien-être, ça va être l'occasion pour toi d'être transformé et d'apporter dans ton couple, d'apporter dans ton mariage ce qu'il y a de mieux. D'accord ? Et c'est ça qui va participer à ta propre transformation. Mais il faut enlever de l'idée que je me marie pour être heureux. Je ne marie pas pour être heureux. Enfin, le mariage va vraiment commencer. Il va falloir aux deux conjoints une bonne dose d'énergie, de la bonne volonté, une bonne dose d'abnégation et un engagement de tous les instants. Là, si tu n'es pas prêt à ça, là, bon, maintenant c'est trop tard, mais pour ceux que j'enseigne, je dirais, te marie pas, reste célibataire. Si tu n'es pas prêt à t'engager dans ce chemin-là, ne te marie pas. Parce que ça va être un enfer pour toi. Tu vois ? Il faut savoir ce que c'est que le mariage. C'est de l'abnégation. C'est de la bonne volonté. C'est de l'énergie. Parce que tu vas devoir supporter l'autre. La réussite du mariage va désormais passer par le travail. Et surtout, le travail sur toi. Là, je vous prends 2 minutes pour que ça monte au cerveau, parce que c'est tellement important. Tu vois, et surtout, c'est tellement un renouvellement des mentalités. Tu vois, c'est une remise à plat de ce que c'est que le mariage et de mon positionnement dans le mariage. En fait, il faudrait le savoir avant pour réfléchir, pour se dire, bon, je vais réfléchir deux fois. Mais oui, parce que c'est ça le mariage. Le mariage, c'est du travail. Aimer, c'est du travail. Si on sort de l'amour à deux balles, aimer, c'est aimer l'autre tel qu'il est. Et bien pour aimer l'autre tel qu'il est, et ben il te faut de l'abnégation, il te faut de l'humilité, il te faut de l'énergie.
L'énergie du Seigneur, une alchimie d'amour.
Yes, ça va venir, calme-toi. Tu vas voir, pour l'instant, réalise que le mariage, c'est du travail. Le mariage, c'est un engagement. Tu t'es engagé. D'accord ? Et ça ne va pas marcher tous les jours comme toi tu le veux. Ah, ça c'est clair. Il y a des jours où tu vas prendre des claques.
Et on va finir par croire que c'est vraiment forcé.
Ah mais pour certains, ça, pour certains, il y en a qui disent, tu sais, pour certains, il y en a qui disent, t'as de la chance d'être célibataire. Et les célibataires, ils disent, t'as de la chance d'être marié.
Parce que tu parles toi, il n'y a pas de bonheur, on n'est pas heureux quand on se marie. Il faut
approfondir
ces
choses-là. Ouais, en fait, si tu veux, bon, faut pas qu'on prenne trop de temps. En fait, si tu veux, alors, si tu veux, il faut faire la différence, écoute bien, il faut faire la différence entre, quand tu mènes bien ton mariage, c'est du plaisir. Le mariage t'amène beaucoup de plaisir. Mais le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur et c'est réservé à Dieu.
Amen.
C'est que dans ta communion avec Dieu. Parce que le bonheur, quand on l'entend, le bonheur, c'est pas quelque chose qui fait ça. Ça, c'est le plaisir. Le plaisir fait ça. Là, plaisir. Là, c'est malheureux. Là, c'est plaisir. Là, c'est malheureux. Ça, c'est la vie. Plaisir. Mais le bonheur, le vrai bonheur, il est intérieur. Parce que le bonheur, il n'est pas comme ça. Le bonheur, il est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il est basé sur Dieu. Et Dieu est invariable. Dieu ne change pas. Et quand tu vis avec la joie de Dieu, c'est pas une joie qui dépend des circonstances. C'est pas une joie qui dépend de ça. C'est une joie qui dépend de ta communion avec Dieu.
Voilà. C'est ce que je vais te dire.
Amen. Bravo.
Et oui, et aussi, il faut concevoir qu'une femme, quand elle a ses règles, elle est en dérèglement. Ça apporte des hormones négatives.
Hormonales.
Voilà. Les hommes aussi, alors.
Non, la ménopause aussi. Hein.
La ménopause, tu racontes pas. Je suis en plein dedans. Ah,
bon. Donc, pour.
Je reviens
en arrière. Ça, c'est un peu dur. Hein. C'est dur à avaler, ça.
On est des couples quand même.
Mature.
Chrétiens.
Ouais.
Mature, ça veut dire plus de 20 ans. Il y a peut-être 2, 3 ouais. couples là.
Ouais. Allez, vas-y.
Mais
lâche le morceau.
Le plus difficile, c'est que on s'ouvre son cœur l'un à l'autre.
Ouais.
Il peut y avoir des gens à vivre dedans.
Il peut y avoir tant de quoi ?
Des gens à vivre. Des personnes à vivre.
À vide. C'est-à-dire à vide, c'est quoi ?
Un qui va profiter de l'autre.
Non.
Parce que son cœur est ouvert.
Alors,
ça
oui, alors je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça qu'il y a tout un travail qui se fait avec le Seigneur. Parce que il ne peut pas y avoir d'amour vrai sans vulnérabilité.
Oui,
tu es d'accord ? Mais le risque de l'amour, le risque d'aimer, c'est de prendre le risque d'une certaine vulnérabilité. Mais ça se fait progressivement. La confiance, quand elle a été sabordée, elle se reprend petit à petit. Tu comprends ça ? C'est un chemin. Et c'est pour ça, on verra dans les prochaines sessions, on va parler du cœur à cœur. Tu vois, les choses vont se mettre ensemble, petit à petit. Mais comme l'a dit ta chair, il faut que les deux soient d'accord. Il faut que les deux disent, ok, on va s'occuper de notre couple. Et, chose qu'on va faire, il faut prendre le temps, parce que tout ce que je te dis là, la plupart des choses, personne ne le savait. On avait des petites idées, mais pas aussi précis que ça. Et donc, il faut tenir compte qu'on s'est planté. On s'est planté royalement. Dans quel sens je dis ça ? Dans le sens qu'on s'est blessé mutuellement. Et donc, il va falloir passer par le pardon. C'est la clé. C'est-à-dire que c'est comme si que tu te dis, à partir de maintenant, je vois comment mener mon mariage, on va repartir à zéro. Et avec Dieu, c'est toujours possible. Il y aura un avant et un après. Et j'ai préparé un petit truc pour aider les couples à dire comment on fait pour recréer de l'intimité, comment on fait pour repartir à zéro. Mais c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas de venir ici à un enseignement et puis, ah, c'était bien, oh, Bertrand, il aurait dû faire du théâtre, il est doué, tout ça, bon, ok. Mais on s'en fout. C'est pas ça. L'idée, c'est de se dire, bon, moi, je veux que ça porte du fruit. Et que aujourd'hui, tu es enseigné. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu dis, maintenant, on va faire autrement. Il y aura un avant et un après.
Amen.
Et la séparation des deux, elle passe par le pardon. Tu vois, chérie, la repentance. Chérie, excuse-moi, parce que tu vois, tout ce que j'ai vu ce soir, j'ai vu mon couple là-dedans, je me suis vu, et j'ai besoin de te demander pardon. C'est obligé. On s'est fait mal. Et on se fera encore mal. Mais il faut au moins partir, parce que sinon... Qu'est-ce qui va se passer ? on va être nourri par de l'amertume. On va être nourri par de la frustration. Et ça va être des discussions du style « Ah, mais tu vois, ça fait combien de temps que je te dis ça? Ça fait combien d'années que je te dis ça ?» Et puis toi, tu prends des claques. « Oui, c'est vrai, chérie, oui, c'est vrai. » Et puis toi, et toi. Et puis voilà, c'est ça qu'on va passer notre soirée à se reprocher tout ce qu'on a vécu pendant 6 ans, 10 ans, 15 ans. C'est pas ça que je veux, moi. Moi, ce que je veux, c'est l'humilité. On n'était pas enseigné, on ne savait pas, on a fait comme tout le monde et on s'est planté. Point barre. Maintenant, on part sur une nouvelle base et maintenant, on va faire en sorte que notre couple fonctionne et qu'on passe les 20, les 30 meilleures années qu'on n'a jamais passées. C'est ça une créature de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle à la lecture de la parole de Dieu. Il faut de l'humilité, il faut avoir envie, il faut reconnaître qu'on s'est blessé, qu'on a été blessé. Oui, ok, mais l'avenir est porteur d'espérance. L'espoir est devant, le désespoir est en arrière. Ok, mais si vous êtes là ce soir, c'est que je crois que vous avez envie que votre couple fonctionne.
Amen. Amen. Amen encore.
Alors le travail va commencer. Et le travail, eh ben, c'est Dieu qui nous le dit dans sa parole, c'est Jésus qui nous le dit, hein, dans Matthieu 7, 3, c'est simple. Il dit, tu dis que c'est ta femme, tu dis que c'est ton homme. Ouais, mais lui là, il a juste une paille dans son œil. Mais toi, t'as une poutre.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, au lieu de dire, regarde, regarde lui, oui, oui, regarde, regarde la poutre, regarde la paille, regarde la paille, regarde la paille. Jésus, il te dit, oui, mais regarde la poutre qui est dans le tien. Tu comprends? C'est que c'est beau de voir tout ce qui ne va pas chez l'autre. Ça, c'est facile. Et franchement, on n'a pas besoin de faire des études pour ça. Le diplôme, il est assuré. Voir tout ce qui ne va pas chez l'autre, on est champion du monde. Mais voir ce qui ne va pas chez nous, aïe, 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 ça, ça fait mal.
Amen, amen.
Ça, ça fait mal. Alors, surtout quand l'autre nous le dit, quoi. Petit coup d'égo, ça fait mal. Et c'est ça, la réalité. La réalité, c'est qu'on est appelé à être transformé.
Amen.
Et pour être transformé, ben, il faut bien qu'il y ait quelque chose à transformer. Tu vois, c'est comme la repentance. On vient à Dieu et on dit « Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi, pardonne-moi. » Et puis quand il y a quelqu'un qui nous met le doigt sur le péché, on fait quoi, moi j'ai ça, moi, j'ai pas de problème, moi. Mais, ah, t'es parfait. Mais non, il m'a dit que j'étais parfait. Ben alors, ah, mais, me dis pas ça, ça me fait mal. Non, 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 faut de l'humilité. Faut dire « Seigneur, le péché, il m'a touché comme tout le monde. Il n'y a aucun juste sur cette terre. Tout le monde a péché, tout le monde est privé de la grâce de Dieu. Ben, Seigneur, moi, je veux rentrer dans cette vie, je veux être nettoyé, je veux être purifié. Viens nettoyer ce qu'il y a à nettoyer.
Amen.
Si tu ne fais pas ça, mais tu vas vivre, tu ne vas jamais changer dans ta vie. Tu vas être un religieux. Tu pourras venir le mardi, le jeudi, le dimanche, tu pourras faire les tâches, le service, tout ce que tu veux, mais ton cœur, tu vas rester un religieux dans ton cœur. Et tu vas rester un orphelin. Tu seras un orphelin avec le Seigneur, mais le Seigneur ne veut pas d'orphelin. Le Seigneur, il a dit, je ne te donnerai pas un cœur d'orphelin, je te donnerai un cœur d'adoption. Tu es mon enfant. Vous comprenez?
Amen.
Et c'est ça, la Bible, c'est la vérité.
Amen.
La Bible, c'est pas un style de je sais pas moi, un style de marche ou regarde un peu, moi je suis chrétien, regarde, moi je suis ci, moi je suis ça, mais t'es rien du tout. Tu arrête tes conneries. Ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu, t'es un enfant de Dieu. Amen. Si tu obéis à Dieu, si tu fais ce qu'il te demande. C'est ça la réalité. On n'est pas là pour jouer à un jeu, on n'est pas là pour jouer à l'église. On est là pour être vrai, authentique, des êtres transformés par le
Amen.
Seigneur. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'être transformé par le Seigneur.
Amen.
Amen. D'avoir la patate tous les jours. Tu crois que c'est facile d'avoir la patate tous les jours? Non, ça se cultive.
Ah oui.
C'est une décision.
Amen.
C'est-à-dire, il n'y a rien, Seigneur, tu es là. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'avoir la patate ce matin.
Amen.
Je ne donnerai pas un chouïa au diable. Il peut aller se faire cuire un œuf.
Ah, mais je te préfère muscler que d'être patate.
Mais c'est ça la réalité. Et il faut se battre. Il y a une revanche à prendre sur l'ennemi. L'ennemi, moi l'ennemi, il a bousillé ma famille. Il a fait un enfer chez moi. J'ai une revanche à prendre sur lui. Il n'aura pas ma famille actuelle, il n'aura pas.
Amen.
Elle est à Dieu, ma famille actuelle.
Amen.
Mais ça me demande du travail. Ça demande, il faut s'abandonner. Il faut mourir à soi-même. Amen. La patate, la patate, c'est une décision la patate. Tous les jours, il sait venir, donne-moi la patate. Cela va nécessiter un véritable lâcher prise. Tu comprends? Quand on rentre dans le mariage, quand on rentre dans le mariage, chérie, je parle. Quand on rentre dans le mariage, il faut un lâcher prise. Un vrai lâcher prise. Ok? Reconnaître humblement ses défauts, ses dysfonctionnements et demander à Dieu de nous transformer. C'est là, on commence à rentrer dans le mariage. Là, tous les deux, c'est pas un, c'est les deux qui décident ça. De dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi humblement à lâcher prise, à lâcher ce que j'arrive pas à lâcher, à ce que je veux retenir là. Mais ça n'a pas de valeur. Devant Dieu, ça vaut rien. Lâche tout ça. Lâche. Lâche.
C'est pas le divorce, c'est pas lâcher le mari.
Reconnaître humblement ses défauts. Oui, Seigneur, je reconnais mes défauts. Tes dysfonctionnements, oui, je les reconnais. Et je te demande de les transformer.
Amen.
Il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu, il y a le mariage qui est en jeu, il y a les enfants qui sont en jeu, les enfants qui nous regardent. Les enfants qu'on veut amener à Dieu, et nous-mêmes, qu'est-ce qu'on donne comme témoignage? On se bouffe la rate. Regarde chérie, comment que c'est beau d'être à Christ. On se bouffe la rate tous les jours. J'ai pas envie d'aller à Christ, moi. C'est ça. Et voilà, on voit notre petite personne. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. Qu'est-ce qu'on montre aux autres? Le mariage, il est bafoué dans ce monde-là. Mais est-ce qu'on est capable de montrer un vrai mariage? Est-ce qu'on est capable de montrer à notre famille, à nos amis, ce qu'est un vrai mariage? Eux, ils ne vont pas se satisfaire des paroles. Hein. Ils vont vous regarder. Ils vont vous regarder. Et il faudrait qu'ils s'amènent et qu'ils disent, t'es, vous êtes amoureux. Ouais. Comment vous faites? Mais il y a le Seigneur.
Amen.
Il y a le Seigneur. Comment tu parles à ta femme? Comment ta femme te parle? Est-ce qu'il y a de la gentillesse? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Est-ce qu'il y a de la douceur? Est-ce qu'il y a de l'intimité?
La patience.
Il y en a, tu leur arraches le cœur si tu dis, tu peux dire à ta femme chérie? Oh, je n'ai jamais dit chérie. Moi. Non, c'est madame. Madame. C'est moi, c'est madame.
Madame.
Madame. Mais c'est quoi l'intimité avec madame? Tout le monde s'appelle madame, monsieur. Quelle intimité que tu as créée? Attends, je vais voir madame. Sans déconner. Maman. Oh, madame. Maman, je t'en donne des mamans. Faut se remettre en question. Dans cette troisième phase, les époux se rendent compte que l'autre a ses défauts, mais j'ai aussi les miens. L'autre a ses qualités, tout comme moi. L'autre n'est pas parfait et je ne suis pas parfaite. Amen.
Amen.
Amen. C'est une nouvelle phase qui commence où chacun va travailler à se changer lui-même au lieu de s'acharner à vouloir changer l'autre.
Amen.
Amen, 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 amen. Ah, ça vient la première. Parce que ça commence à prendre une autre tournure. Quand ça y aura un peu plus de paix dans la maison là.
C'est tranquille.
J'ai un peu plus envie de rentrer chez moi.
Ah oui.
L'autre va pas me sauter dessus. Ça va aller mieux.
Ça va? Tu veux rentrer chez toi?
Ah, moi je suis content de rentrer chez moi. Le mariage, ce n'est pas un homme et une femme qui se battent l'un contre l'autre. C'est un homme et une femme qui se complètent et qui se battent pour leur mariage.
Amen.
C'est ça la réalité. C'est une phase de croissance et surtout de prise de conscience où chacun s'aperçoit que le bon déroulement et l'issue finale de l'union relèvent de leur responsabilité commune. Amen.
Amen.
Le Lopenter.
Ah, il y a des fleurs.
Imaginez, qu'est-ce qui va sortir de votre mariage? Ça ne sera pas la faute de l'autre, hein. Ça sera la faute de tous les deux. Si vous ne réussissez pas votre mariage, ça sera de votre faute, à tous les deux. Le Lopenter, c'est ce que Dieu vous a donné. Il vous a donné votre mariage, il vous a dit, tiens, voilà un Lopenter. Qu'est-ce que tu fais avec
un
ça
héritage.
Tu fais des fleurs? Tu fais pousser des fleurs? Où tu laisses les mauvaises herbes pousser. La nature, elle a horreur du vide. Soit votre mariage, il sera avec des ronces, ou soit votre mariage sera avec des fleurs.
Amen.
Et votre responsabilité, elle est là. Et devant Dieu, ça ne tiendra pas de se cacher derrière aussi. T'as vu, Seigneur, t'as vu la femme que tu m'as donnée. Non. Ça, c'est Adam, ça. Ça, c'est Adam qui a joué au couloir avec Ève. Moi, je te dis, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Ève. Ouais. Et tu pouvais dire, vous. Donc, on réalise bien qu'il y a du boulot. Et c'est tous les deux qu'on est responsable. Et on ne se bat pas contre l'autre. On se complète. On ne cherche pas à avoir raison systématiquement. Parce que avoir raison, ça fait ressortir un problème d'estime de soi. Je vous explique. Si vous avez une bonne estime de vous-même qui est basée sur Jésus-Christ, et que Jésus-Christ, ça y est, vous avez fait la paix avec lui, Dieu, c'est votre papa, vous avez une relation intime avec lui, votre estime, elle vient de lui. S'il te dit que tu es une merveilleuse créature, c'est lui que tu crois.
Une identité.
C'est pas un être humain qui va te dire que toi, tu es un bon à rien. Hein, tout ça, il faut que ça soit remixé dans ta tête. Là, il faut que tu revoies tout ça. Et tu te dis, qu'est-ce que mon papa dit de moi? J'ai mis sur toi mon affection. C'est ça la réalité. Okay, si tu crois ça, ben, ça veut dire que tu as de la valeur. Tu n'as pas besoin de le prouver. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Et c'est lui qui a mis toute son affection en toi. Donc, si tu as un problème d'estime de toi, c'est que tu as un problème de relation avec Dieu.
D'accord.
C'est que tu as un cœur d'orphelin. Tu n'as pas un cœur d'adoption. Mais si tu as fait la paix avec ça, si tu as lâché prise, tu as un cœur d'adoption, tu dis « Abba Père ». Abba Père, c'est le premier mot que les enfants ils disent. Abba, papa, 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 papa. C'est le mot le plus affectueux qui existe. Abba Père. Tu vois? Et Dieu veut qu'on l'appelle comme ça. Abba Père. Nous sommes ses enfants.
Amen.
Okay? Donc, si on n'a pas de problème d'ego, si on n'a pas de problème d'estime de soi, de mauvaise estime de soi, ben, on est capable d'entendre que l'autre est différent de nous et qu'on n'a pas besoin de chercher à avoir raison. Il est différent. Et quel orgueil j'aurais de dire « c'est moi qui ai raison ». Pourquoi ? Parce que je l'ai dit. Non. On se fie à la parole de Dieu. D'accord ? C'est pas toi qui as raison, c'est pas l'autre qui a raison, c'est qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Quel est l'esprit ? Parce que tout n'est pas marqué dans la Bible, mais il y a l'esprit. On fonctionne avec l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc qu'est-ce que dit la Bible ? C'est quoi l'esprit de la Bible ? Et c'est ça qu'on va mettre dans notre foyer. C'est ça qu'on va mettre dans notre mariage. C'est pas « moi j'ai raison ». Pourquoi ? Ah ben parce que chez nous, on a toujours fait comme ça chez moi. Ben oui, mais ça c'est culturel. Ça c'est papa et maman. Mais qu'est-ce que dit la Bible ? C'est ça qui m'intéresse. Donc il y a plein de choses à remettre en question parce qu'on n'a on a pas été enseigné comme il faut, on n'a pas eu forcément les bons exemples. Et il faut couper de papa et maman, tu quitteras ton père et ta mère et tu vas créer quelque chose de nouveau. C'est pas je crée quelque chose de nouveau et j'emmène papa et maman avec moi. Non, ça c'était leur vie. Et toi, c'est ta vie.
Amen.
Les parents vont t'amener des bons conseils. Mais la décision finale, c'est toi et ton épouse qui la prennent.
Enfin, ça sent...
Et on arrive au sens du mariage. Dieu a créé le mariage afin que l'homme et la femme soient dans une relation intime, lui permettant d'exprimer au mieux son amour, de pouvoir recevoir l'amour de l'autre et ainsi de répondre à l'amour de Dieu.
Amen.
Tu as la réponse. Tu as la réponse. Le couple, c'est un lieu d'intimité. C'est un lieu où on crée l'intimité. Et on aura l'occasion, pendant les différentes séances, de voir comment recréer l'intimité quand l'intimité a été perdue. Mais en tout cas, le sens du mariage, c'est qu'il n'y a pas meilleur endroit pour créer l'intimité. Parce que c'est là où va avoir lieu la relation sexuelle. C'est là où va avoir lieu l'intimité sexuelle. Et pour Dieu, c'est sacré. L'intimité sexuelle, c'est le lieu secret. C'est le lieu sacré. Tu vois ? C'est un lieu protégé. C'est un lieu où il n'y a pas plus grande intimité. Et donc, la relation sexuelle n'est que l'aboutissement d'une intimité qui se développe. Pour finir dans une relation sexuelle, avec une alliance. C'est l'alliance, c'est le mariage, Et c'est là où tu vas rentrer en intimité sexuelle avec ta femme, c'est là que l'alliance va se créer, c'est là où l'hymen va être déchiré, que le sang va couler, c'est là que l'alliance se passe, dans le lieu secret, avec l'intimité. C'est sacré pour Dieu. Maintenant, on fait l'amour pour un oui, pour un non, on consomme. Mais pas pour Dieu. Pour Dieu, l'amour, c'est pas dissocié de notre vie à Dieu. C'est pas dissocié de l'intimité qu'on a créée. Sinon, ça n'a pas de sens. On ne fait pas l'amour comme ça, et alors qu'on est, on est fâché, alors qu'on est en froid, juste parce que, oh chérie, j'ai mes hormones qui sont un peu excitées, là, il va falloir faire quelque chose. Mais non, tu vas te calmer, mon gars. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Mais non, c'est pas ça. C'est que l'intimité sexuelle, c'est une intimité, et elle finit par la sexualité. Et là, tu respectes. Il y a le respect. Et c'est sacré. Donc c'est pour ça que le mariage a été créé. C'est un lieu où tu exprimes l'amour. Il n'y a pas plus, en tout cas entre êtres humains, il n'y a pas d'endroit où ça peut être plus fort que ça. C'est le lieu. Quand il n'y a plus d'intimité, excuse-moi d'être franc, il n'y a plus de sens au mariage. On arrive vers la cohabitation. C'est là où on parle de cohabitation. C'est quand il n'y a plus d'intimité dans le couple. Et l'intimité se crée. L'intimité, c'est la communication qui devient de la communion. De la communion devient de l'intimité. Et de l'intimité va aller à la relation sexuelle. C'est un tout. Mais s'il n'y a pas tout ça, là, on est à côté de la plaque. Il faut qu'on se demande pardon. Il faut qu'on se repente. Ça calme.
Il n'y a plus de bruit, ça calme.
Oui, mais c'est la vérité. Il faut comprendre pourquoi le mariage. Il faut comprendre c'est quoi le mariage. Et c'est pour ça qu'on se bat pour notre mariage. D'accord ? Il faut arrêter de se bagarrer pour un oui, pour un non, faire des enfantillages. Ça ne mène pas au mariage. Ça mène à une cohabitation et on n'a même plus envie à un moment de cohabiter. On a juste envie de prendre ses clics et ses claques et de se barrer.
Ça, c'est quand il y a des enfants aussi.
Il y a une responsabilité du mariage. Tu vois ? Et donc, il y a une manière de faire dans le mariage. On ne fait pas n'importe quoi. On prend soin de notre mariage. On le chérit. Il est sacré. Notre relation de couple est sacrée. Bien sûr qu'on a des différences. Bien sûr qu'on a des caractères. Mais c'est ça qui va faire qu'on va bonifier notre couple. Il faut le voir plus loin que le bout de son nez. Il ne faut pas juste voir « Ah, c'est compliqué. Oh, disons, qu'est-ce que les femmes sont compliquées. Ah, le caractère de cochon. Ah, gna gna. Ah, gna gna. » Non. On est tous différents. On est tous différents. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je mets au profit de mon couple. Qu'est-ce que je mets au profit de mon mariage. Allons un peu plus loin. Là, depuis tout à l'heure, on parle d'amour. Mais là, maintenant, je voudrais qu'on rentre dans cette phase importante où on va différencier l'amour. Quel amour ? Parce que le mariage, c'est un amour bien spécifique. Pour bien comprendre, on a besoin de différencier l'amour de Dieu, qu'on appelle agapé, et qui est un amour inconditionnel, et l'amour humain, philia. C'est un amour par affinité, propre à l'être humain. On va voir que dans le mariage, c'est une relation particulière où ce qu'on va être amené à développer, c'est agapé. C'est pas philéa. Parce que philéa, ça marche pas. Philéa, c'est bon pour deux bons potes qui vont se voir de temps en temps et qui vont trinquer ensemble. Ça, philéa, ça marche. Philéa, c'est bien pour papa et maman. Philéa, c'est bien pour les frères et sœurs. Yes. Mais pour le couple, il faut aller plus loin. Pour le couple, il faut aller chercher agapé. Alors, on va voir pourquoi. Nous allons voir à travers quelques définitions l'amour agapé, le sens du mariage. Voici une bonne définition d'un pasteur qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Ce n'est pas l'amour sentimental qui maintient le mariage, mais davantage le mariage qui soutient l'amour.
Ouais, c'était écrit sur notre frigo.
Ce ne sont pas nos sentiments amoureux du début de notre rencontre qui vont nous permettre de conserver notre mariage dans le temps. Nos sentiments créent en nous des émotions, mais les émotions ne sont pas fiables. Elles ne sont pas des, des maîtres. Ce sont des bons serviteurs, mais en aucun cas ils doivent devenir des maîtres. C'est-à-dire que notre vie ne doit pas être gérée par des émotions. Tu vois, au début, on est porté par les émotions. Tu sais, au début, on est amoureux, enfin, oh, on est rempli d'émotions, tu vois, mais ça ne dure pas et ça ne marche pas. Et les émotions, ils ne sont pas fiables. Parce qu'un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Un coup, il m'a bien parlé, un coup, il m'a mal parlé. Et on ne peut pas baser notre mariage là-dessus. Le danger de se fier à nos émotions, si nos émotions conduisent notre mariage, celui-ci va ressembler à un bateau qui est pris dans une mer déchaînée ou alors il va se retrouver dans l'œil du cyclone. Un coup, ça va aller, un coup, ça ne va pas aller. Et là, on n'a pas un mariage solide. On a un mariage qui fonctionne en fonction de notre humeur, en fonction de « Ah ben là, j'ai les poils qui s'hérissent, et puis là, j'ai plus les poils qui s'hérissent. Ah ben là, ça ne va plus. J'ai l'impression que je t'aime plus. » Mais pour traverser les tempêtes, on a besoin de nous brancher chaque jour à une autre source d'amour, c'est agapé. Un amour qui vient du cœur de Dieu et qui est basé sur une décision d'aimer, et on retrouve le mot « engagement ». On aime, même si on n'a pas envie d'aimer.
Wow.
Oui. Pourquoi? Parce que tu as pris une décision. Tu as dit, je vais t'aimer dans les bons jours et dans les mauvais jours. Mais seulement les mauvais jours, on oublie. On dit, ah, je vais t'aimer pour les bons jours. Ah ben là, je signe direct. Pour les mauvais jours, pas sûr. Pas sûr que ça le fasse. Non! Agapé, c'est aimer l'autre tel qu'il est. Pas tel que je voudrais qu'il soit. Ah! Et c'est pour ça que ça prend une autre source d'amour. Parce que nous, êtres humains, on n'est pas capable. On n'est pas capable. Il faut qu'on aille se brancher à la bonne source.
Amen.
Et tant que tu n'es pas branché à la bonne source, ça ne marchera pas ton couple. Tu vas faire par tes efforts à toi. Tu vas faire par tes efforts. Tu vas dire, je m'énerve pas, je m'énerve pas. Non, je m'énerve pas, je m'énerve pas, je m'énerve pas, je m'énerve pas. Puis tout d'un coup, ça va exploser parce que la cocotte minute, elle est pleine. Et quand tu écoutes, tu vas... Ah, oh, je ne voulais pas m'énerver, je me suis énervé. C'est ça qui va se passer. Ça, c'est pour ceux qui dorment. L'amour dans le mariage, c'est plus que des sentiments. C'est un engagement.
Amen.
Ok. Ça, le couple, il va durer. Ton mariage va durer si tu prends ça comme un engagement. D'accord. Quand l'autre n'est pas agréable, je l'aime quand même. Quand l'autre a sa période difficile d'une fois par mois, je l'aime quand même. J'ai décidé d'aimer. Et tu sais quoi? Quand ça va devenir difficile, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'est pas dans des bisounours là, tu vas voir ton papa. Quand elle ne t'a pas répondu comme tu aurais voulu qu'elle te réponde, quand elle t'a envoyé un scud, un truc bon, toc, une bonne piqûre, tu vas voir ton papa. Et tu vas pleurer dans les bras de ton papa. Et lui, il s'appelle le consolateur, Paraclétos. Et lui, il va te consoler. Lui, il va te prendre dans ses bras. Il va dire, oui, mon chéri, papa est là.
Amen.
C'est ça.
Et tu n'es plus orphelin.
C'est ça, la vérité. Tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus tout seul. Tu vas voir ton papa. C'est les enfants qui rentreront dans le royaume de Dieu. Les petits-enfants. Donc, même si tu as 60 ans, tu as encore ton cœur de petit-enfant. T'as encore le petit enfant au fond de toi qui crie et qui dit « C'est pas juste, tu m'as mal parlé, c'est pas bien ce que t'as fait. » Mais tu vas voir ton papa et ton papa saura comment te rétablir.
Amen.
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 Ouais, c'est un engagement.
C'est un engagement, le mariage.
Pas 100%, hein, regarde.
Regardez ce que ça donne, les sentiments versus l'engagement. Le sentiment pense à soi, l'émotion. Le sentiment pense à soi. Tandis que l'engagement pense à l'autre.
Amen.
Et là, on va commencer à mourir à soi-même. Là, on va vraiment rentrer dans le dur. Celui qui m'aime, c'est celui qui me suit. Celui qui voudra sauver sa vie, c'est celui qui la perdra. Là, on commence à rentrer dans le dur. On joue plus, là. On rigole plus, là. Là, je rentre dans l'engagement. Je pense à l'autre. Le sentiment vise mon bien-être. L'engagement cherche le bien-être de l'autre. Ah là, ça commence à piquer. Là, ça commence à faire mal. Dans le mariage, Écoutez bien, parce que ça fait mal, ça. Dans le mariage, je cherche le bien-être de l'autre. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas à sens unique, c'est à double sens. Moi, je cherche le bien-être d'Erland, mais Erland, elle cherche mon bien-être. Parce que dans un sens, ça marche pas. Que dans un sens, vous savez que ça porte un nom. Ça s'appelle de l'abus. Mais c'est pas l'amour de Dieu. C'est pas agapé. Agapé, c'est quoi agapé? Agapé, c'est Christ qui se sacrifie à la croix pour toi. C'est ça agapé. Agapé, c'est lui, il a vu ton bien-être. Il a vu dans quelle galère t'étais. Eh bien, il a donné sa vie.
Amen.
Donc, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ta femme? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ton mari? Ouais, vraie question. Si on est vrai, si on est authentique. C'est ça la vraie question. Est-ce que je suis prêt à mourir à moi-même? Est-ce que le petit énervement, la petite irritation là, qui vient me chatouiller, là, est-ce que je suis capable de dépasser ça? Ou est-ce que j'accroche ça et je dis, c'est pas normal? Non, c'est pas normal. Il faut qu'elle paye. On va payer. Elle a du travail à faire, les gars. Elle a du business à faire. Dans le bon sens. Le sentiment repose sur l'émotion, tandis que l'engagement repose sur une décision. Parce que l'émotion, elle ne sera pas toujours là. Hein. Je vous assure. Quand l'autre vient te piquer comme ça, je te dis que l'émotion n'est pas bonne. Hein. Je te le dis. Mais ce qui fera la différence, c'est ta décision.
Amen.
Mon cœur, il est
le sentiment sacrifie l'autre pour soi. Tandis que l'engagement sacrifie le moi pour l'autre. L'engagement ne veut pas dire que je fais abstraction de mes émotions. Il signifie que mon engagement domine sur mes émotions du moment. C'est ce qu'on appelle la maturité. Je ne me laisse plus aller, je ne me laisse plus conduire par mes émotions. C'est mon engagement. Et ça va passer. Ça va passer. L'émotion, elle passe. L'autre, dans un élan d'amour, si elle est conduite par agapé, s'il est conduit par agapé, il va venir et il va dire, chérie, excuse-moi pour tout à l'heure. Je t'ai mal parlé. C'est comme ça que ça va se passer. Si le cœur n'est pas fermé, si le cœur n'est pas orphelin, hein, le cœur est ouvert, le Saint-Esprit va te reprendre. Et le Saint-Esprit va te dire, hey, c'est pas cool là, ce que tu as fait là. Et tu vas voir. Et c'est là que soit ton cœur est fermé, soit ton cœur est ouvert. Soit tu résistes au Saint-Esprit qui te montre et tu dis, ah, mais je peux pas, je suis désolé, là, je vais dans ma grotte. Et alors un cœur ouvert, il va dire, ok chérie, viens, viens dans mes bras. Excuse-moi pour tout à l'heure. C'est ça la progression. Tu vois, c'est ça la progression spirituelle. C'est ça la croissance spirituelle. Tu vois, ça se juge à ce genre de choses-là. Pour réussir cela, il y a une victoire à aller chercher sur soi-même. C'est sur notre chair qu'il faut combattre tout ça. Notre chair, elle n'a pas envie. Notre chair, elle a dit non, ça fait, elle m'a fait mal. Elle va payer. C'est pas normal. C'est pas normal. Elle doit payer. Justice, vengeance. Cette victoire, on ne peut la trouver que dans une communion profonde avec notre Dieu d'amour. Et ce n'est pas du blabla. C'est parce que tu es en communion avec Dieu que tu vas pouvoir être transformé. Avant, tu étais comme ça, et tu restais sur ta position, et ton orgueil était là, et ton ego était là. Dans ta communion avec Dieu, tu commences à t'ouvrir, commences à lâcher prise, commences à recevoir l'amour de Dieu qui te guérit. Et tu dis, t'es chérie, excuse-moi, je suis qu'un imbécile.
Ça marche pas que pour le couple.
Oui, mais là, on parle du couple. Tu comprends ça?
Amen.
Ça, et là, on commence à toucher les fondements du mariage. Là, on commence à être dans le vrai. Comment on va garder de l'intimité? Comment on va pouvoir vivre en intimité? Eh bien, en acceptant qu'on fait des erreurs, on les reconnaît et on vient se réconcilier. C'est comme ça qu'on va recréer de l'intimité. C'est comme ça qu'on va la garder. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'attrape. C'est quelque chose qui se développe. Quelque chose qui se cultive avec comme principal ingrédient entrer pleinement dans notre statut d'enfant adopté.
Amen.
Nous étions tous des enfants orphelins. On était tous avec un cœur orphelin. Mais le passage, Dieu t'a emmené dans son royaume. Il t'a assis à côté de lui. Il t'a adopté. Est-ce que tu le vis vraiment? Est-ce que tu vis vraiment cet amour de Dieu pour toi, dans ton cœur? Est-ce que tu vis vraiment ça? Parce que si tu vis vraiment ça, alors le reste va pâlir à côté. Le reste aura moins d'importance à côté. Parce que tu verras ce qui est important, d'être un enfant de Dieu, aimé par son papa. Un papa parfait. On n'a pas eu de papa parfait, mais maintenant on en a un. Donc on a eu des gens imparfaits et on a fermé notre cœur. Aujourd'hui on a un papa parfait et aujourd'hui on peut ouvrir notre cœur. C'est ça la différence. Combler ce besoin de vivre continuellement dans cet amour inconditionnel. Tu vois, c'est un besoin qu'on a tous les jours de se ressourcer. C'est pas seulement « Ah, t'as pas lu ta Bible ce matin ? Ah, t'as pas fait ci ce matin ? Ah, t'as pas fait ça ce matin ?» Ça, c'est du légalisme. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être rempli de l'amour de Dieu tous les jours. C'est ça. Je refuse de sortir de chez moi sans être rempli de cet amour inconditionnel. De ressentir cet amour de Dieu. Et là, tu quittes le religieux. Tu quittes le religieux, tu rentres dans une relation. Amen. Une vraie relation. Amen. Une relation intime. Et là, si tu es rempli de l'amour de Dieu, là, tu vas pouvoir supporter les autres.
Amen. Ouvrir ta Bible, il n'y a pas besoin de dire il faut faire ci, il faut faire ça.
Bien sûr qu'il faut ouvrir la Bible. Bien sûr qu'il faut prier. Mais je veux dire que tu comprends, on n'est pas dans un mode légaliste, un mode de culpabilité. Ah, j'ai pas ouvert ma Bible. Ah, arrête ça. C'est pas ça que Dieu regarde. Il ne veut pas des légalistes. Il veut que tu sois son enfant. C'est fini là, le papa avec le fouet qui t'attend ou la ceinture. Puis il dit, ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. On est un papa qui veut une vraie relation avec toi.
Amen.
Une relation d'amour. Quand c'est Agapé qui dirige ma vie, la priorité n'est plus ma satisfaction, mais c'est d'abord celle de l'autre. Il y a une mort à soi-même dans le succès de notre mariage. C'est un échange. Je me donne à ma femme. Je fais tout pour elle et elle fait tout pour moi. Vous voyez, c'est un échange mutuel. C'est ça, Agapé. C'est ça, le mariage. Je me donne à elle, elle se donne à moi. Il n'y a pas plus beau que ça. Et quand ça fonctionne, ben vous êtes bien. Tout simplement, vous êtes bien. C'est parce que ça ne s'explique pas avec des mots. Seulement, on est bien ensemble. Mmh. On est bien.
C'est un arbre de vie.
Une autre définition, l'amour, c'est un effort constant et persistant de ma part, c'est-à-dire le don de soi, afin de créer pour mon conjoint un contexte propice pour qu'il devienne ce que Dieu veut qu'il soit, c'est-à-dire une personne épanouie. J'ai en tête le bonheur de l'autre, qu'il soit dans un environnement qui favorise sa croissance spirituelle, qui favorise son bien-être. Je crée les conditions pour que l'autre soit bien. Et c'est mutuel. Et on verra avec le cœur à cœur, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle se sent aimée. On verra les langages de l'amour. Comment elle se sent aimée quand je fais ci, quand je fais ça. Et bien même si je ne savais pas, Dieu va m'apprendre à le faire.
Amen.
Et petit à petit, l'autre va être comblé aussi, à mon niveau de ce que je vais pouvoir donner. C'est le développement de la notion de serviteur dans le cœur du chrétien qui devient disciple. Nous nous mettons au service de l'autre. Et c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie.
Amen.
C'est ça le parallèle avec la croissance spirituelle. Plus que des émotions, c'est un investissement. L'amour dans le mariage, c'est un investissement de ma part. Et comment ça va se traduire? Je vais faire le maximum pour qu'elle se sente aimée. Et pour qu'il se sente aimé. Ça, c'est beau. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est le sens qu'on donne à notre mariage. Je me mets au service de mon conjoint en me posant les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon conjoint soit encore mieux avec moi? Ma façon de lui parler, ma douceur, mon comportement, comment je le valorise, comment je la valorise, comment je cherche à répondre à ses besoins, à ses attentes, comment je la sécurise. Bien sûr, je ne suis pas Dieu. Bien sûr, je ne peux pas tout faire. Ok, mais je peux faire ma part. Et ma part, c'est se poser les bonnes questions.
Amen.
Connaître son mari, connaître sa femme, en s'ouvrant, en ayant un cœur ouvert, en partageant des choses qu'on n'a jamais partagées, mais qui sont là dans le secret de l'intimité, et où je comprends mieux les souffrances de ma femme, je comprends mieux les souffrances de mon mari, et comment je peux, à mon niveau, apporter du réconfort, apporter quelque chose pour qu'elle se sente bien avec moi, elle se sente en confiance avec moi, elle se sente en sécurité avec moi. Amen !
Amen !
C'est bien, je vous ai réveillé. Nous retrouvons dans notre mariage une dimension biblique et un parallèle avec l'Église. Je ne me sers pas de l'Église, mais je sers l'Église. De même, je ne me sers pas de mon mariage, je sers mon mariage.
Amen.
Ou encore, je ne me sers pas de mon conjoint, mais je sers mon conjoint.
Amen.
Amen. En conclusion, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Comment c'est possible? Notre mariage, c'est comme un puzzle. Il est perpétuellement en construction. Mais à la différence d'un puzzle qu'on achète dans le commerce, c'est Dieu qui a le dessin final. Quand on va dans le commerce, on achète le puzzle et puis il y a le dessin. Et on recopie le dessin. C'est pas compliqué. Avec Dieu, c'est un puzzle. Il va raccorder les deux cœurs. Mais c'est lui qui a le dessin final. Pourquoi? Parce qu'il va usiner nos pièces pour que ça s'accorde avec l'autre. Il va te travailler. Il va travailler ta pièce. Là où c'est dur, là où c'est pointu, là où c'est encore difficile. Il va venir, il va arrondir ça pour que ça rentre dans le puzzle de l'autre. Amen. Mais Dieu ne fera rien sans notre volonté. La réussite de notre mariage dépend de notre croissance et de notre maturité spirituelle. Notre mort à nous-mêmes. Et laisser toute la place à Dieu par la puissance de celui qui agit en nous.
Amen.
Éphésiens 3:20. Par la puissance de celui qui agit en nous. Ce n'est pas nous qui faisons. Nous, c'est notre volonté. Seigneur, aide-moi. Mais on est branché à la bonne source. Et c'est par la puissance de celui qui agit en moi que les choses vont se transformer.
Amen.
Amen. Amen. C'est ça qui est beau. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Il faut qu'on ait cette communion
Amen.
Avec Dieu.
Amen.
Dieu fait les choses et on change. Et on le voit. On dit, t'es Seigneur. Waouh, avant j'aurais pas été capable, mon cœur était trop dur. Avant j'aurais pas pu faire ci, avant j'aurais pas pu faire ça. Et aujourd'hui je le fais par la grâce de Dieu.
Amen.
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 Amen. C'est beau. C'est beau. Amen. Amen. Cet enseignement, moi je vous le dis, comme ça que je le vois, c'est un rendez-vous divin. C'est peut-être un nouveau départ pour réussir le mariage. Tu vois, à n'importe quel âge. On peut repartir sur des bonnes bases
amen.
Et se demander pardon.
Amen, amen.
C'est ce que je vous invite à faire, c'est de me demander pardon amen. Et de dire, on repart sur des nouvelles bases. Et je veux que si Dieu nous prête vie pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça soit les meilleures années de notre mariage.
Amen.
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 Je vous invite à donner une toute autre direction à votre mariage sur des nouvelles bases, afin que votre mariage ne finisse pas en cohabitation, mais qu'il soit à la gloire de Dieu. Et vous allez guérir en plus de
c'est
ça. En plus de ça, vous allez guérir de certaines maladies. Parce que ça rejette forcément positivement sur notre physique. Pour cela, tu as une décision à prendre. Quitte le chemin de l'amertume et du non-pardon. Oui, il y a sans doute des erreurs. Oui, il y a sans doute des blessures. Mais ça, c'est le quotidien de la vie. C'est le lot de la vie. Ok ? Mais avec Dieu, on peut toujours repartir sur des nouvelles bases. D'accord ? Prendre le chemin de l'humilité et du pardon. Demander pardon et pardonner. Demander pardon et pardonner. Nous, chrétiens, ça devrait être une gymnastique de tous les jours.
Amen.
Je te demande pardon, je pardonne. Je te demande pardon, je pardonne. Parce qu'on sait qu'on fait des erreurs. On sait qu'on n'est pas parfait. On sait que sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc l'humilité nous amène à nous demander pardon. Et ça ne nous arrache plus le cœur. Ça ne nous arrache plus le cœur. Parce qu'on est dans les mains de Dieu. On est dans les bras de Dieu. On est près du cœur de Dieu. On est dans le cœur. Afin de laisser Dieu diriger ta vie et ton mariage. Dieu t'appelle à changer ton comportement, à pardonner, à demander pardon à ton épouse et à te donner à fond pour ton mariage. À fond les gamelles pour ton mariage, qui est une personne. Qui est une entité à lui tout seul. Tu nourris ton mariage et les deux nourrissent le mariage. Et on verra dans les prochaines sessions, on verra comment on nourrit le mariage, comment le cœur à cœur, comment l'intimité, comment tout ça prend forme concrètement dans la vie de tous les jours. Beaucoup de mariages chrétiens sont mal en point ou fonctionnent en mode cohabitation parce que les conjoints ne savent pas s'aimer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas, mais ils ne savent pas s'aimer. Et s'ils ne sont pas réellement donnés l'un à l'autre. Ils fonctionnent encore sur le modèle de ce monde où règne le chacun pour soi.
Ça, c'est vrai. Individualisme.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité.
Donc ta famille.
Il n'y a pas que nous qui est en jeu. Il y a toute la suite. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Est-ce qu'on va leur donner envie? Ou est-ce qu'on va simplement leur raconter du baratin? Et t'inquiète pas qu'ils vont vite voir si c'est du baratin.
Les enfants, oui. Même petits.
Amen, amen, amen,
amen. Amen.